Plan large.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Alexandre Luyet, bonjour.
Bonjour.
On s'est donné rendez-vous à Martigny. J'ai envie de parler avec vous de ce projet incroyable, hein. Time Machine Valais, c'est un projet européen, on va en parler, qui fait renaître, hein, le passé. Pourquoi Martigny, vous avez choisi? On est à l'intérieur de l'amphithéâtre de Martigny.
Ouais, alors j'ai choisi cet endroit parce que Martigny, c'est un haut lieu de l'histoire et de la culture en Valais, et puis on est aussi pas très loin de l'IDIAP, donc ça mêle un peu tous les aspects qu'il faut pour faire des bons projets.
Ouais, l'IDIAP, c'est pas l'histoire et la culture, c'est le futur.
C'est le futur, l'intelligence artificielle, ouais. Exactement. Ouais.
Et on va voir que ce projet Time Machine, justement, allie, hein, et marie les deux. Time Machine Valais, ça s'est centré sur Sion pour l'instant, on va en parler, mais d'abord, enfin, était en tout cas au début.
Alors, Sion, c'était le premier projet qu'on a fait. L'association, elle vise à avoir des projets sur tout le canton. Donc aujourd'hui, on a des projets qui sont à Sion, dans le Val-de-Bagne. On avait un projet autour des constitutions aussi, qui était là sur tout le canton. Et puis le prochain qui arrive, ça sera à Martigny.
Bon, on va tout de suite aller dans le vif du sujet, un time machine. Alors ça fait penser à la machine à remonter le temps, hein, le roman, pas d'anticipation pour le coup, mais enfin si, quand même un petit peu, hein, c'est dans l'avenir, on pourra retourner dans le passé. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de time machine?
Alors les projets de time machine, c'est des projets d'humanité numérique, comme on les appelle. Donc d'utiliser les nouvelles technologies numériques et de les appliquer au domaine du patrimoine, de l'histoire. Donc la vision qu'on a, c'est d'arriver à recréer à long terme, hein, une simulation du passé. Imaginez une espèce de Google Maps dans laquelle vous auriez une quatrième dimension, celle du temps, pour pouvoir voir par exemple cet amphithéâtre, comment il était à l'époque romaine, au Moyen-Âge, aujourd'hui, etc. Donc on utilise des technologies numériques, c'est l'analyse des données, l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, pour faire renaître ce patrimoine qu'on a. On a deux publics cibles. D'une part, c'est les chercheurs, donc de leur fournir des nouveaux outils. C'est par exemple des outils de reconnaissance automatique de textes manuscrits, leur permettre d'aller chercher dans des anciens registres, par exemple, des outils de traitement de données à large échelle aussi. Et puis le deuxième public qu'on a, c'est le grand public. C'est vous et moi, dans l'idée de se réapproprier aussi ce patrimoine, de le redécouvrir d'une autre manière. Je sais pas, moi, quand je viens dans un endroit comme ça, je me dis toujours, mais à quoi ça ressemblait avant?
Ouais.
Et puis on aimerait bien pouvoir...
Est-ce qu'il y avait des gladiateurs?
Voilà, donner la réponse à tout ça.
Ouais. Alors, on a l'impression comme ça que c'est un coup de baguette magique, hein. Grâce à l'intelligence artificielle, on va tout connaître de notre passé. C'est complexe, hein. Et puis le travail des historiens, des archéologues était déjà le même, en somme, hein. Aller se coltiner des tonnes d'archives, parfois difficilement lisibles. Et c'est là que l'intelligence artificielle, justement, peut aider en traitant, en numérisant, ça c'est la première chose, mais ensuite en traitant ces documents de façon beaucoup plus rapide et beaucoup moins rébarbative, en fait.
Exactement, c'est un nouvel outil qui arrive, qui va jamais remplacer le travail des historiens, des archivistes par exemple, mais qui rajoute un nouvel outil. Il y a beaucoup de travaux de numérisation qui ont été entrepris ces dernières années, dans le domaine des archives notamment. Et puis maintenant, on a ces données qui sont disponibles. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire. Et grâce aux nouveaux outils numériques qu'on a, c'est tout un champ qui s'ouvre dans... C'est tout un champ qui s'ouvre dans le travail des historiens. On est capable maintenant de prendre des registres, de les traiter numériquement, d'extraire les données. Et puis une fois que ces données sont disponibles, on va pouvoir les croiser avec d'autres. Et c'est là que ça devient vraiment
intéressant. Ça donne le vertige, hein, parce que alors, tous les historiens qui ont fait un peu ça, c'est-à-dire affronter des cartons un peu poussiéreux, un peu mal rangés, et essayer d'y trouver ou faire une revue de presse à large spectre sur quelques décennies, c'est très long, il faut le faire, mais c'est très long. Là, ça pourra aider les chercheurs de façon incroyable.
Alors oui, c'est ce qu'on espère. Et puis c'est là où c'est intéressant, c'est que comme vous l'avez dit juste avant, la vision, elle est assez claire. Par contre, le chemin pour y arriver, c'est là que ça se corse. Et puis sur les dernières années, bon, on a aussi expérimenté les limites de ces techniques. On a un projet d'extraction de données sur des registres, des recensements, par exemple du 19e siècle, où ben voilà, ils ont été remplis à la main, pas toujours dans les bonnes cases, etc. Et lorsqu'on on applique un algorithme de reconnaissance automatique de l'écriture manuscrite, ben on arrive à des taux de reconnaissance au début de 50%, de 60%, de 80%. Là, on est à presque 90% de taux de reconnaissance. Mais 90%, ça veut dire quand même qu'il y en a 1 sur 10 qui est pas correct. Quoi. Donc, on peut pas encore se baser et faire confiance aveuglément aux résultats que donne la machine.
Mais par contre, moi, j'ai entendu des scientifiques liés au projet dire l'intelligence artificielle est déjà meilleure que l'humain pour lire, par exemple, le vieux français, des langues anciennes, avec leurs écritures spécifiques, évidemment, parfois difficiles à déchiffrer pour le profane. Alors évidemment, il y a des philologues qui seront peut-être encore meilleurs et qui pourront contrôler ce que fait la machine, mais elle est déjà meilleure que nous, que 99% d'entre nous, quoi.
Bah, ce qui est assez marquant, c'est le changement d'échelle. C'est que si je dois lire un millier de documents, ça va me prendre un petit moment, alors qu'une machine peut le faire en quelques secondes. Là où c'est pas encore à 100%, c'est dans l'interprétation, c'est de savoir est-ce que ça fait du sens ou pas, avec quoi je vais pouvoir utiliser, enfin pourquoi je vais pouvoir utiliser cette information pour la croiser avec autre chose. Et c'est là que le travail des deux vient, des deux mondes qui se rencontrent, est super intéressant. Alors, c'est ce qu'on vit dans ce projet. Quoi.
Alors c'est là qu'on voit l'incroyable intérêt des civilisations de l'écrit, on n'est pas les premiers, les judéo-chrétiens, on va dire, tout ça est né au Proche-Orient, avec déjà des petites tablettes d'argile qui disaient tel a vendu un âne à tel pour tant de sacs de blé, et tout ça a été conservé. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Et aujourd'hui, ça m'a frappé, dans ce projet, on a des choses extrêmement austères, des registres de notaires par exemple, qui disent telle maison a été vendue, etc. On les a sur des siècles parce qu'on a ce génie ou cette maladie de la conservation, et ça permet de bosser dans ce projet de Time Machine de façon incroyable.
Exactement, c'est la matière première qu'on a. Alors comme vous dites, ça a l'air assez austère, mais ça recèle plein d'informations qui sont super intéressantes. Le projet, on a commencé autour de Sion par exemple. Donc si on sait qui était par exemple propriétaire de telle maison, qui l'a vendue à qui, on peut recouper cette information avec une autre information d'un recensement. Et voilà, cette personne était le frère ou la sœur d'une autre. On a ensuite d'autres registres qui donnent d'autres informations. Et puis ça permet de, en recoupant ces données, de faire émerger toute une vie, toute une société, un moment de l'histoire qu'on pouvait pas...
Oui, puis on va pouvoir trouver des descriptions de tel ou tel bâtiment dans tel ou tel document administratif. Donc, au final, quand je dis c'est rébarbatif, bah oui, un registre de notaire, c'est des lignes qui se suivent avec des actes, des documents, des moments. Et puis au final, on a une carte de Sion au XVIIe siècle, je dis n'importe quoi, mais de Sion ou de Martigny, mais on a une carte avec tel bâtiment était plutôt comme ça, etc.
Ouais. Et c'est après, tout le travail, c'est de recouper les différentes sources. Quand on a fait la reconstitution du château de Tourbillon, par exemple, on s'est basé, grâce aussi à tous les travaux qu'a fait Patrick Elzig, du musée d'histoire, qui est vraiment le spécialiste de Tourbillon. On a pris des anciennes gravures de différentes époques, on avait des textes, on avait des registres, on avait des relevés de fouilles. Et puis c'est des travaux qui ont été faits au fil des décennies. Comme pour Sion, on a tout un travail sur la stratégie immobilière des familles sédunoises qui a été fait, qui date des années 80. Et puis c'est tous ces travaux qui ont été publiés au fil des années, qui sont restés dans un tiroir, une étagère, qu'on peut ressortir, qu'on peut recouper avec d'autres données.
Voilà, c'est ça, c'est un gros travail de recoupe. Finalement, on va trouver un mot, un nom, le mot-clé est la clé de tout, en fait, c'est ça.
Exactement.
Ouais, on travaille avec les mots-clés. Alors, je vous ai taquiné, vous m'avez corrigé dès le début, en parlant de Sion au début. C'est vrai que c'était Sion au début, mais il faut dire que c'est né au milieu d'une cohorte de grandes villes européennes, de grandes villes de patrimoine. Venise était le fer de lance un peu, même si Venise est maintenant sortie de ce projet européen, mais c'était pas anodin que Sion, capitale modeste on va dire, soit dans cet aéropage de grandes cités qui allaient à la recherche de leur passé.
Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs dizaines de villes qui font partie de ces projets, donc elles sont fédérées tous ces projets sont fédérés au niveau européen au sein d'une association qui s'appelle la Time Machine Organization, dont l'association Valais-Vallis Time Machine est un des membres fondateurs. Et puis de nous faire notre place au début, c'était pas forcément facile. La plupart des autres projets de Time Machine sont issus d'universités ou d'instituts de recherche. Et puis nous, ici, on avait dès le départ voulu faire quelque chose qui soit aussi concret, enfin, qui permette vraiment de valoriser le patrimoine culturel, historique et archéologique pour le grand public. Et au fil des ans, finalement, on a réussi à avoir des résultats intéressants dans des projets assez concrets. Et puis ça nous a permis d'avoir aussi de la visibilité au niveau européen pour ces projets valaisans.
J'ai l'impression que ça fait c'est une sorte d'aboutissement de siècles d'archivistes qui se sont demandé pourquoi ils gardaient tout ça, non? Et tout à coup, on a les archivistes d'aujourd'hui qui disent ah bah voilà, voilà pourquoi on a gardé tout ça.
Alors si vous posez la question aux archivistes, ils vous diront que c'est tout à fait clair pourquoi on garde tout ça et pourquoi on les conserve. C'est vraiment une matière première qui est extrêmement précieuse. Ça pose aussi la question de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on archive, qu'est-ce qu'on va garder comme données.
Ouais, ça c'est vertigineux. Hein. Avec le tout numérique aujourd'hui, on sent que tout ça est devenu très fragile, hein, beaucoup plus que le parchemin.
Oui, c'est aussi des discussions et des enjeux qui sont beaucoup discutés dans la communauté historique ou les archivistes.
Bon, alors je le disais sans trisurcion au début, et puis très vite, hein, ça on le voit dans les prises de parole dès le début de l'appartenance valaisanne à ce projet, on a dit il y a deux angles, on a un peu parlé des chercheurs et tout ce que ça pouvait leur apporter, et puis il y a un angle grand public, il y a une vraie volonté de faire vivre ça, hein. On pense, ça peut devenir un jeu vidéo, ça peut devenir un parcours immersif avec des lunettes 3D, c'est à la mode en ce moment, c'est encore un peu cher, hein, mais voilà, ça peut faire plein de trucs qui pourront offrir le passé au public en fait.
Oui, c'est vraiment l'idée.
On va parler de quelques projets après la pause, mais l'idée, c'est, j'aimerais vous entendre sur ça, sur l'idée que ça ne doit pas rester une affaire de scientifique.
Non, je pense que là où ça devient intéressant, c'est quand tout le monde peut se l'approprier. Enfin, c'est notre patrimoine commun, c'est notre histoire commune.
On va y venir justement dans la deuxième partie de cette émission et on se retrouve dans...